Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Faire rentrer nos invités et Jean-Loup appuie sur le gros bouton rouge sur lequel c'est marqué coupure canal B.
Du coup, je n'ai pas mes lunettes.
Oui, et ben la prochaine fois, vous touchez vos fesses.
Surtout quand vous
n'avez
pas vos lunettes.
Résultat des coups. Ouais, résultat des courses, pas de radio pour nous. Géraldine, bonsoir.
Bonsoir.
Comment dirais-je, inestimable commande attachée de presse du festival Courmétrange, Aigurval, bonsoir.
Bonsoir.
Notre premier invité qui voit son temps de parole durement raboté et nos invités qu'on peut même plus inviter parce que vous avez appuyé sur le bouton rouge.
Oui, mais j'ai pas fait exprès, je vous jure. Mais
Dieu,
je vais essayer de rebondir par rapport à la thématique de la soirée. Bah, comme chaque année, au mois de septembre, ça fait au moins la 23e ou 24e fois qu'on vous invite.
Juste 19e.
Ouais, enfin, juste. Voilà, pour
non,
rappeler.
Ce soir, c'est bon à rien.
Et ben, je voulais dire tout simplement le fameux festival court-métrange. Et c'est vrai que l'ambiance est bizarre. Ça a commencé bizarrement.
Ah oui.
On les a perdus bizarrement. J'ai appuyé sur ce putain de boulon bizarrement, qui n'était pas protégé.
Alors, à votre décharge, il est juste à côté du bouton pour ouvrir la porte.
Bah ouais, mais il faut le savoir.
Il y a le bouton coupure canal B.
C'est vrai.
En plus, c'est pas un interrupteur normal, c'est un espèce de machin tout curieux dans lequel faut y mettre le doigt au risque de prendre une décharge.
Mais c'est bien votre doigt que vous avez mis.
Ouais, c'est celui-là même.
La thématique n'était pas les fantômes cette année.
Canal B, nom de Dieu, c'est pas marqué.
Je vais en gros en rouge.
Je ferai plus.
Là, à l'entrée de la sortie, là, ou à la sortie de l'entrée, comme vous voulez, c'est marqué porte. Il y a un interrupteur, c'est marqué porte.
Mais je vous rappellerai qu'il y a pas si longtemps aussi, j'ai enfermé
dehors pendant un
à 10 alors qu'on était en direct et qu'on n'avait aucune clé pour rentrer. Je faisais pas le malin. Je suis poursuivi par le sort. Allez, on se met un petit disque
et puis après on attaque deux ou trois mots quand même avec nos invités qui sont quand même un peu venus pour ça.
Voilà, c'est étrange quand même.
C'est étrange, vous allez voir comment vous allez prendre.
When I want to know if you love me so, when I feel that I'm not sure, I look into your eyes. Cause they tell no lies, and this is what they say. You're in love with me. Oh, oh, oh. When I want some kissing, you know that I've been missing, and I want them right away. I look into your eyes, because they tell no lies, and then you realize, and I'm a kissing you. When I need some loving, baby, when I need some fucking, baby, when I want you to make me feel I'm the one, all I gotta do is take one look at you, and baby, I know that you're true. This is what I do whenever I am blue, but I know you'll treat me right. This I realize, satisfied, and then I understand, and I'm a
kissing you. Then I need some loving, baby. Then I need some hugging, baby. Then I want you to make me feel I'm the one. All I gotta do is take one look at you. And yeah, 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 I'm in love with you.
Alors, et oui, il va pas mettre le générique parce qu'avant je vous avais demandé de la permission de désannoncer ce morceau.
Vous Remains, faites ce que vous voulez, vous.
When I Want to Know, bah oui, parce que je voulais le dédicacer à une amie qui me l'a fait découvrir. Creuse, voilà, ce morceau.
Non, c'est bien,
allez-y.
Oh là là.
Moi, je peux me le permettre parce que j'appuie pas sur le bouton rouge, vous ferai dire.
Allez, on va mettre le jungle.
Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère?
Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Et mon cul, tu l'aimes aussi?
You fuck my fucking wife?
Je suis ton père. J'aime l'odeur du napalm sur la rizière.
Et son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un Z, qui veut dire Zorro.
Bond. My name is Bond. James Bond.
I fuck my wife!
Mon précieux. Le joufflu, il sait le joufflu, il est mauvais.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Et c'est la rubrique... cinéma.
Ce soir, pour la peut-être pas la 19e fois, parce qu'on les a peut-être pas reçus dès le début, mais on les a reçus quand même très très tôt. Et on en est fiers d'ailleurs, à l'heure où certains, comment dirais-je, pisse froid, je dirais, du 7e art, disent que le court-métrage ne mérite pas, comment tous les hommages, comment dirais-je, comme le long-métrage, lui, le... Voilà, c'est pour ça que, je sais pas, moi, les spécialistes un petit peu du cinéma Canal B vous avez un peu snobé, nous on est contents. Par contre, depuis des années de vous suivre, et on tient à remercier cette année aussi Géraldine, parce que ça fait combien de temps vous travaillez?
Moment,
vous êtes attachée de presse pour le festival.
Moi, ça fait 9 ans.
9 ans et ça fait donc 9 ans.
Et peut-être 10 ans pour les 20 ans l'année prochaine.
Ça serait bien. Et d'une efficacité assez remarquable. Ah, oui. Là, vous faites bien votre boulot, ça n'a rien à dire. Et les gens arrivent à l'heure comme il faut.
Et elle a tenu avec nous dans le noir pendant une demi-heure, parce que quand on est arrivé
sans s'énerver.
Alors, est-ce que c'est comme... Alors vous êtes attaché de presse, je suppose que vous ne travaillez pas que sur Courmétrange.
Non.
Et qu'est-ce qui vous attache, vous, à Courmétrange? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival?
Déjà, je trouve que c'est des défricheurs de films assez exceptionnels, parce que moi, je ne suis pas une adepte particulièrement du genre. Et à chaque fois que je vais dans leur séance, je suis estomaquée des films qu'ils arrivent à mettre à l'écran. Et puis après, aussi, c'est toute une ambiance, Courmétrange. C'est vraiment une équipe hyper agréable. Là, actuellement, ils ont augmenté, ils ont doublé le volume du village qui accueille les spectateurs.
Il y a de plus en plus de trucs, ça devient l'événement en fait.
C'est à chaque fois de toute façon un événement. Hein. Quand on y va, les séances sont en elles-mêmes hors l'écran. Il y a déjà une ambiance fabuleuse avec les chauffeurs de salle. C'est vraiment un moment... très festif.
Et c'est vrai que par rapport, je sais pas, on avait dû arriver pour l'émission, je sais plus, édition 4, 5, je me souviens plus exactement, ça a pris de l'ampleur hein, quand même, en termes de représentation, il y avait pas de village à l'époque, c'était dans un cinéma, j'ai oublié le nom du cinéma.
C'était au TNB avant.
Des conditions un peu rigrac, et puis aujourd'hui, quand on va sur votre site internet, c'est riche, hein. Enfin dans le sens où ça parle dans tous les sens, et j'ai passé un petit peu de temps, boum, j'étais un petit peu ébloui, par tout ce qu'on peut trouver dans ce fameux festival qui se déroule de quand à quand, en fait on l'a pas précisé. Alors Gurvan.
Alors Gurval.
Gurval, vous vous êtes chargé de communication.
Gurvan ou Gurvan?
Gurval.
Là, Gurval. Ah non,
pitié. C'est rare pour être souligné.
Gurval, j'ai noté. Et je vous donne vos noms de famille parce qu'on en rigolait quand je faisais pas le matin.
Non, non, on n'a pas rigolé du tout.
Le Galant Tézek.
Le Galant Tézek.
Ah non, Dieu. Et ça, c'est Brézou. Il y a pas de souci. Non, non, mais ça, je suis fier. Là.
Ah, vous n'allez pas le faire chier en plus, vous avez déjà le cul sale, vous n'allez pas en plus abîmer notre invité.
Gurval, voilà, c'est plus que simple.
Voilà. Vous êtes chargé de communication, ça fait combien de temps que vous bossez pour Court-Métrange?
Alors moi j'ai commencé en 2018, hein. J'ai commencé en tant que bénévole, je me suis occupé des réseaux sociaux. Et depuis l'année dernière, je suis chargé de communication salarié. Et donc cette charge m'incombe et est quand même dense, parce que comme vous avez vu, le programme est quand même intense et de plus en plus diversifié là. Par exemple,
et il s'étend comme une pieuvre, oui, parce ou que, comme un poulpe, devrais-je dire.
Comme on le disait, ça a commencé le 21 septembre et ça dure jusqu'au 1er octobre.
Ok.
Dans le cinéma, dans plein d'autres lieux dans la ville de Rennes, mais également en ligne.
Voilà.
En ligne, c'est-à-dire...
Ça a commencé comme une compétition de court-métrage, et maintenant, c'est carrément un événement diffus qui utilise plusieurs arts, et même plusieurs types de culture, avec la soirée d'inauguration, la soirée queer.
Ah bah là, oui, qui a été un gros succès d'ailleurs. Mais non, en fait, on a commencé par une compétition de court-métrage, donc comme l'a dit Géraldine, avec une sélection très pointue, vraiment éclectique et qui va chercher dans le fantastique, l'insolite. Enfin, c'est une sélection très très rigoureuse et
rigoureuse, pointue, mais en même temps très grand public aussi.
Ah oui,
c'est-à-dire que
sûr,
des
sûr,
gens comme
sûr,
moi
oui,
qui ne
sûr.
Suis pas une adepte forcément
non,
du
non,
genre,
non,
moi
il y
je
en a
me
pour
retrouve
tout le monde.
Complètement ouais, ouais.
Rigoureuse, mais complètement ouverte et vous n'allez pas tomber. Il n'y a pas à boire et à manger en fait. Et c'est vraiment tout est bon. Mm. Après, ça peut plaire plus ou moins. Enfin,
ouais, ouais.
Mais c'est quand même quelque chose de qualité. Voilà.
Et une petite question, est-ce que c'est un boulot que vous avez de manière annuelle ou est-ce que c'est juste pendant 6 mois ou c'est fractionné? Enfin, je ne sais pas si je pose la question.
Pour ma part, en tant que chargé de communication,
ouais, ouais.
Moi, maintenant, je suis à l'année. Là.
À l'année, d'accord.
Ouais, je suis à l'année.
Donc, c'est un festival en fait, qui crée des emplois sur un an. Mais c'est bien aussi
de le faire. Il y a combien de salariés?
On est trois salariés.
Trois salariés.
Voilà. Il y a Cyrielle, la directrice. Il y a Benoît qui s'occupe de la partie EAC, donc les actions à l'année. Culturelle, éducation et culturelle, et de la partie jeune public, donc qui est le festival dans le festival, mais qui finalement devient la moitié du festival, parce qu'il y a autant de public jeune que de public.
Les écoles notamment, ça fait longtemps,
tout
des années
fait, ouais.
Que vous êtes tourné vers les écoles, il y a court-métrage école, il y a aussi des masterclass à destination des scolaires.
Cette année, il y avait plus de 4000 étudiants, jeunes, nés en primaire au lycée, qui sont allés.
On est entre 7 à 8000. Spectateurs et quasiment la moitié en jeune public. Donc,
c'est
on a vraiment une reconnaissance au niveau des établissements scolaires qui est impressionnant.
Et à partir de quel âge justement?
Alors on va dire à partir de 6 ans.
Des trucs étranges à partir de 6 ans.
Mais étranges, mais choisis, on va pas non plus balancer la sélection.
Et Nounours, déjà, c'était quand même un joueur l'autre qui vous jetait du sable.
Des choses étranges quand même.
Qui vous jetait du sable, métaphore de l'héroïne, allez savoir.
Non, on va pas les traumatiser, les gamins.
C'était quand même glauque. Un ours qui parle, qui vous jette des trucs à la goule.
Le but, c'est quoi? C'est deux choses, c'est les passionnés pour le court-métrage en lui-même et le côté étrange, enfin, dans le style de film. Est-ce que c'est d'allier les deux choses, le cinéma d'un côté et l'étrange, enfin je dis l'étrange ou fantastique de l'autre?
Je reprends en fait le fil de ce que je disais tout à l'heure. En fait, à la base, c'était une compétition internationale de court-métrage. Et après, on a établi la thématique. Et là, maintenant, on tricote, on va dire, sur la thématique. C'est-à-dire qu'on organise des conférences, des rencontres, des tables rondes et des projections. Donc là, on a attaqué maintenant le long métrage. Donc là, on a les soirées long métrage qui commencent le 21, justement. Mmh. Et là, le 26, donc hier, a commencé la compétition qui va se terminer samedi soir. Et donc, voilà, c'est... Le cœur du festival reste quand même la compétition, donc avec là on a les invités,
parce que,
le jury et tout ça.
Ouais, et même là, donc le festival court-métrange a monté en grade, parce que maintenant on est à quel Méliès vous êtes
y
a,
ah oui, y a... donc nous on fait partie de l'EFFF, j'ai oublié un F, c'est l'European Film Fest Fédération, et donc c'est la fédération Méliès. Et donc nous, en tant que membres de cette fédération, on décerne le Méliès d'argent, qui est en fait le ticket pour aller concourir pour le Méliès d'or, donc qui se joue au niveau européen.
Ok.
Et on est le seul festival de cours à le décerner.
Ben oui, et moi, ça fait longtemps.
Dit-elle avec une certaine fierté.
Et ça fait plusieurs. Et moi, je suis, comment dirais-je, grâce à ma fille, il a fallu que je m'y mette, hop, pouf, sur Instagram et compagnie. Et donc, je suis court-métrange. Et j'ai vu nos amis qu'on recevait dans le temps. On avait, quand ils venaient encore à notre buvette, maintenant, j'imagine peut-être que le festival, la buvette est mieux fournie. On les voit de moins en moins. Comment notre ami, aidez-moi. Steven.
Bah oui, le
Travong,
président.
Président, ah, le président.
C'est toujours lui le patron.
Comme au Groland, hein, c'est le président.
Et présentateur. Lui, et présentateur, aussi.
Présentateur de séance.
Parce qu'il mouille la chemise quand même, parce qu'il n'est pas que président, machin. Ouais. Il mouille la chemise animateur. À chaque représentation.
Et je me souviens quand il venait dans les premières émissions, il rougissait en parlant, etc. Il a pris un petit peu d'ampleur.
Ça voulait lui dire en face.
On va s'écouter un petit disque et j'aurai quelques questions aussi à poser à Gurvan.
Gurval.
Val. Oh, allez, putain. De
Dieu. Allez, on s'écoute avec la programmation à Roger, on s'écoute quoi.
Je vous appelle Gérard, ça va être plus simple.
Alors que Tom zappe mon morceau allègrement.
Non, le vôtre, j'étais le premier.
Mais non, penses-tu, j'étais deuxième.
Oh là là, arrêtez, vous êtes étrange.
Arrêtez de couiner, ok, non. J'arrête de couiner.
J'ai inversé.
Et j'en passe directement à ce qui est quand même l'essence même du festival, okay. À savoir une compétition de cinéma, des courts-métrages, dont le point commun, c'est de toucher dans le fantastique, science-fiction, etc. Mm-hmm. Parfois matinée d'humour, animation aussi, je suppose.
Mm-hmm. Bien sûr, c'était d'ailleurs ce soir, à 19h, la séance animation.
Voilà. Et ouais, c'est ma préférée.
Et demain, oui, là, ça me permet de renchaîner.
Ah, demain, à quelle heure?
C'est-à-dire que là, en fait, cette année, c'est la première fois qu'on fait des rediffusions l'après-midi. Donc, c'est-à-dire que les séances du soir, donc ça, par exemple, ce soir, on avait la séance animation à 19h, vous pourrez la retrouver demain à 14h30.
Yep. Ah bah j'irai.
Et celle de 21h30, vous la retrouverez à 16h30.
Ah,
et tout
super.
Ça dans la même salle, dans le même cinéma et pour le même prix.
Ok. Donc une thématique cette année, autour, alors, donnez-nous le le terme complet de...
On va donner la version courte, c'est comme un poison dans l'eau.
Voilà.
Voilà.
Est-ce que c'est toujours le même concepteur d'affiches? Ouais, parce que pour moi, Courmettre à Ange, c'est aussi...
On travaille avec le studio Kérosène, donc studio rennais de communication graphique. Et alors que je ne m'abuse, ils ont commencé en 2009 ou 2008. Et donc ça fait quand même quelques
années.
J'adore
ouais, leur visuel, ouais, c'est fantastique.
On travaille avec eux et...
Ils sont fantastiques.
Ouais, ouais, ça m'a échappé, mais c'est vrai qu'ils ont une vision. Et j'en ai mis, moi, dans ma maison et ma femme hurle parce qu'elle dit « Oui, ça fait peur aux petits. » Mais non, ça fait pas peur aux petits.
Alors cette année,
les miens en tout cas, ils ont peur.
Cette année, l'affiche a l'air d'être plus.
Oui, je trouve. Elle fait pas peur. Elle est pas. Parce
que... Je dirais pas rassurante, mais ouais, elle a l'air d'être plus avenante pour les gens.
Parce que dans le monde aquatique, une des toutes premières affiches était quand même un cornet de glace avec un espèce de poulpe qui sortait du cornet de glace.
C'est
magnifique.
Ça.
Elle est
tout
magnifique. Ça.
On
c'est
a eu la glace poulpe. On a eu la femme. Visage corsé avec des verres qui ressortent.
Oui, elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là.
D'ailleurs, ça permet de rebondir sur le village Métrange où on peut trouver tous ces goodies.
C'est qu'on en parle, vous inquiétez pas.
Alors, est-ce que même les vieilles affiches, Géraldine, c'est une bonne. Est-ce que les vieilles affiches sont retirées, même parce qu'il m'en manque?
Alors, c'est compliqué. Là, par exemple, celle du corset.
Je savais que vous alliez me dire ça.
2014, il me semble. 2014, il me semble, on l'a plus en petite affiche, on l'a encore peut-être en carte postale ou en grande affiche.
Les cartes postales sont encore à la vente.
Ouais.
Mais pas l'affiche, quoi.
Ouais, c'est compliqué, c'est un peu la roulette.
Alors, cette année, la programmation, alors que nos futurs invités arrivent, prennent possession des lieux, dites-nous, Gurval, la programmation,
elle est vaste, hein. Alors, vous commencez par quoi?
Alors,
vous avez déjà au moins
84 films courts.
Ça fait beaucoup.
On a 52 films courts pour 10 séances. Oui. Alors là, je vous parle de la sélection vraiment sur la compétition,
voilà.
Sur la compétition, parce qu'on a aussi une sélection qui est tout aussi rigoureuse sur le jeune public. Le chiffre, tu dis 84
84
oui.
En tout.
84 en tout, ouais. Donc non, on a quand même une grosse sélection et donc sur les 10 séances que vous allez retrouver cette semaine, donc avec les rediffusions l'après-midi, voilà, c'est 10 séances, donc doublées, ça fait une vingtaine de séances. Et oui, donc je enchaîne sur le village Métrange quand même, parce que c'est quand même c'est quand même un lieu qui est important pour le festival. C'est-à-dire que là, c'est la troisième année pour nous où on est sur l'esplanade Charles de Gaulle en face du cinéma Pathé. Et là, c'est vraiment l'endroit, c'est le cœur du festival en fait. C'est là où vous pourrez trouver déjà l'équipe, vous allez trouver les jurés, les invités, tous les bénévoles qui sont là.
Alors j'ai une question qui peut paraître bête, mais qui concerne les gens de notre âge. Est-ce qu'il y a une buvette?
Mais évidemment.
Mais j'allais poser la question, c'est la première
évidemment.
Chose.
Alors, le cœur du festival.
Si, il va me dire, je vous laisse vous occuper du village. Alors, moi, je m'attendais. C'était la première question que je voulais vous poser.
Un village sans buvette, c'est pas un village. Hein.
Alors, c'est pas, la façon dont vous appuyez sur tous les boutons qui passent, est-ce bien raisonnable, la buvette, franchement.
Voilà. Et c'est de la vraie bière, hein. C'est pas la free bière.
Et bah là, on travaille avec la brasserie La Dilettante. Donc, voilà.
Alors, il est ouvert à quelle heure, la buvette? Le village.
C'est un village, monsieur.
Le village buvette est ouvert à partir de 16h.
Yes.
À partir de 16h et ferme à minuit. Donc.
Bien.
Et à partir de midi, samedi-dimanche. Voilà. Et 21h30 le dimanche soir. Donc,
ouais, mais ça doit coûter cher pour entre village.
C'est gratuit.
Voilà.
C'est accessible à tous.
Mais les auditeurs pourraient se méprendre, les auditrices aussi d'ailleurs. Ce n'est pas qu'une buvette, c'est aussi un lieu d'échange. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce... Alors, j'ai vu que je l'ai raté parce que je l'ai découvert bêtement aujourd'hui. Débordé.
Y a du
la soirée
monde,
queer, l'ouverture, c'était une soirée queer. Alors quel rapport avec la thématique?
Soirée queer.
Oh, bon, c'est clair.
Eh bien, ça, c'est dans notre logique d'ouverture du festival, dans l'inclusion déjà, enfin, inclure tous les publics. Et donc nous on fait des actions sur le public empêché, les personnes en situation de handicap, les personnes malentendantes, malvoyantes. Donc on fait des séances audio décrites. On a des par exemple sur le ciné-concert, on avait des gilets vibrants, mais bon après ça c'est très particulier, mais en même temps nous on veut ouvrir sur ce public là et ça fait des années qu'on le fait. Et là cette année donc on voulait vraiment ouvrir sur le public queer et sur au travers du cinéma. Et le cinéma fantastique, queer, est riche et vraiment très intéressant. Et là, au travers de la séance qu'on a eue lundi soir,
d'accord,
avec le festival court-métrage de Bruxelles, donc on a eu son président François Marrache qui était présent.
Et qui fait partie du jury.
Et qui fait partie du jury, tout à fait, et qui a donc programmer cette séance. Et donc on a eu un vrai succès au TNB, la salle était quasiment pleine Et ensuite, on a eu cet événement vraiment insolite et fantastique. C'était la Dragopole, donc avec l'incroyable évaporé qui a animé ça d'une main de déesse. C'était drôle, c'était coloré, c'était vraiment métrangien et on a vraiment adoré. Le public a adoré, on a fait péter la jauge du village.
Ouais, j'ai vu des photos sur Instagram, incroyable,
c'était génial,
dégueule de monde.
Vraiment une très bonne ambiance, et très bon public.
Cette histoire de village, en fait, c'est relativement récent, en fait, ça s'est greffé.
Oui, c'est la troisième année. Ouais.
Troisième année, c'est ça. Et plus on est connu, plus ça va être facile, je pense, de pouvoir installer ce genre de lieu. C'est pas la Charles de Gaulle, c'est pas rien quand même.
Bien sûr, ouais. C'est le cœur de Rennes. Et puis,
Il faut des autorisations à cause des barbus. Je parle pas pour moi forcément, mais
surtout que nous, on a créé le village, c'est-à-dire que c'était en 2021. Donc là, on était en sortie de Covid, donc première année avec le pass vaccinal. Donc c'était pas une mince affaire déjà de voir les gens revenir au cinéma et de les faire venir dans un village où il faut des passes vaccinales. Donc voilà, ça a été assez particulier. 2022, l'année dernière, ça s'est beaucoup mieux passé. C'était vraiment... ça nous a vraiment donné une bonne idée.
Yes.
Fallait continuer parce que les gens avaient envie de ça.
2023, on a doublé les mètres carrés.
Et 2023, là, ça y est, on voit que les gens ont adhéré.
On a deux tentes. Une tente avec les commerçants.
On a 600 mètres carrés en fait. L'année dernière, on avait 300, on en a 600. Et la deuxième tente, le deuxième chapiteau en fait.
Avec la buvette.
Et il faudra bientôt la tente de la Croix-Rouge pour mon ami Jean-Loup. Quand il sera cassé là.
J'irai avec des gants de boxe pour être sûr d'appuyer sur rien.
Et ça, est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est le seul festival? Parce que c'est populaire du coup. Je veux dire par là, avec un grand P, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer au village Métrange, découvrir et se dire, effectivement, il y a des programmations de cinéma, il y a des conférences, il y a plein de choses. Et c'est peut-être aussi, moi je sais que pour les premières éditions de Court-Métrange, on allait voir une séance, deux séances, puis après, pouf, on repartait avec des étoiles dans les... Puis on échangeait entre nous, etc. Mais ça restait là. Est-ce que ça vient aussi, le village, d'un besoin de fans de ce genre de cinéma, de pouvoir échanger autour d'une bière, tous ensemble, après avoir vu le film, des gens qui ne se connaissent pas, j'en sais rien.
D'une part, il y a ça, oui. Il y a la volonté de parler de ce qu'on a vu, parce que c'est les séances quand même, le court-métrage vous fait voyager, vous fait réfléchir. Mais tout en étant ludique, on va dire. Donc,
il y a des réalisatrices, des réalisateurs qui viennent discuter avec le public.
On a des réalisateurs
qui seront
d'ailleurs
dans le village.
Dans le village, ouais, d'ailleurs, samedi soir, à partir de 19h, il y a la rencontre avec les réalisateurs en compétition. Donc là, on a des réalisateurs qui vont se prêter au jeu du question-réponse. Et donc là, c'est un moment vraiment intéressant parce que il y a quand même beaucoup à apprendre sur leur manière de travailler, leur vision du cinéma. Et puis, à quoi ils aspirent. Là, par exemple, en membre du jury, on a Rémi Barbe, donc, qui a été vainqueur du Grand Prix Court-Métrange en 2021 avec son film Friandise, et qui est là en qualité de jury, avec Steph Meyer également, qui a été en compétition l'année dernière avec son film Mantra.
Et une petite question avant qu'on se mette un petit livre, parce qu'il y a pas mal de sang, on en parlait tout de suite, au fameux village, il y a beaucoup d'artistes. Par contre, la manière de décrire leurs œuvres est assez... c'est des choses à voir, hein, tout simplement, dans les créateurs de bijoux.
Là, par exemple, oui, là, tu parles du marché Métrange.
Oui, c'est ça.
Et
ouais.
Donc, le marché Métrange, là, c'est la première année. Donc, là, c'est.
Je savais pas, vous faites bien de me parler de ça. Je savais pas
qu'il y avait un marché Métrange.
C'est bien.
Eh bien, très vite.
Je dis bien.
Moi, ça me fait marrer parce que tous les ans, il y a un nouveau truc, machin Métrange. Et comme il y avait le village Métrange, là, c'est le marché Métrange.
Est-ce que le Daya Museum est encore partie prenante du festival cette année? Ils exposent
où? Alors justement par rapport à ce deuxième chapiteau, donc on a une partie Métrange, le marché Métrange, donc où on a invité une dizaine de créateurs et créatrices de la région qui présentent des bijoux, des objets, des livres, et on a une partie exposition, donc dont le Daya Museum fait partie. Et donc on a une autre exposition aussi dans l'autre partie du village, mais on a il y en a un peu partout. Mais la partie exposition avec le Naya Museum et les artistes exposés sont vraiment c'est une part à part. Voilà.
Et parmi les artistes, et après on met un petit morceau de musique parce que monsieur Antoine Mottier vient
d'arriver. Alors lui, il n'a pas appuyé sur le bouton rouge, mais avec son ami, ils ont dû se téléporter. Parce que normalement, l'entrée est fermée. Ils sont rentrés par l'intérieur et ils ont pris l'ascenseur. Je les ai vus débarquer par l'intérieur. Enfin, moi, ça m'impressionne parce que normalement, ça doit être fermé à clé, la radio.
Mais ça a l'air d'être ouvert.
Oui, mais il a les clés.
Ouais. Là, je serais presque d'accord. Enfin, non, vous, pour ça le bouton rouge, vous êtes inexcusable, mais...
Alors, justement, il y a l'atelier Crotte, c'est ça, Rennes, je prononce correctement ?
Quoi ? Alors, Crotte ?
Crotte, oh, je ne sais plus. Craft, oh là là là, putain, il faut que j'écrive mieux. Et pourtant, j'ai qu'en majuscule.
C'est un des exposants, oui, tout à fait.
Ouais, alors, c'est quoi craft, exactement le cyanotype ? Ce que j'ai compris, mais je n'ai pas compris. Alors, c'est l'histoire de photos, hein, là, qu'on superpose ou négatif.
Alors moi, je ne pourrais pas parler du cyanotype, du procédé en lui-même, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une des exposantes du marché Métrange. Et si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir.
Je viens d'entendre Antoine derrière mon dos qui dit moi je
trépigne,
sais.
Et la façon dont déjà il a réussi à se téléporter dans les locaux, ça m'impressionne. Un petit disque de programmation à Jean-Loup, je crois.
Ah, un peu de rock. Bah, ouais. Et voilà, toujours en compagnie, alors que Roger est en train de dire et remercier chaleureusement Géraldine, qui a été très gentille, c'est vrai, c'est
oui,
ça.
Professionnel.
Ouais, je suis en compagnie d'Antoine Mottier, qu'on connaît très 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 bien. Ça fait un paquet de temps que vous venez ici.
8 ans,
vous rendez compte.
J'ai dû louper une émission en 9 ans.
Ça, c'était pas. Enfin bon, vous aviez un mot d'excuse là.
Même pas.
Et non, mais il devait y avoir de la bonne bière à la buvette.
Peut-être, peut-être, sûrement.
Et aussi Jean-Baptiste, je connais.
Jean-Sébastien Steyer.
Mais c'est pas grave, je suis pas musicien, donc Jean-Baptiste, ça me va.
Je dis plus rien.
Allez, il faut mieux que vous disiez rien, parce que je crois que votre attaché de presse vient d'oublier son téléphone portable, avant que ce soit le vôtre. Ah ouf.
C'est Gaussien.
Vous m'avez fait peur.
Bref, qui fait le métier. Enfin, paléontologue. C'est quoi en deux mots la paléontologie? On n'a jamais fait ça. Il va falloir qu'on vous chope, vous, après l'émission. Hein.
Avec plaisir. La paléontologie, c'est l'étude de l'évolution des espèces grâce aux fossiles, c'est-à-dire ces restes d'organismes pétrifiés dans les strates géologiques qui nous apprennent en fait d'où on vient et puis comment la vie évolue sur Terre.
Et c'est votre vrai métier?
C'est mon vrai métier.
Ça existe,
le jour.
Un vrai métier.
Je savais, mais c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Voilà.
Moi aussi,
enfin, c'est
moi, vous avez raison, moi aussi. Et vous, vous êtes sur le terrain ou comment vous gratouillez du sable ou de la terre ou vous êtes, sur le terrain?
Les deux, mon capitaine. Sur le terrain, je travaille beaucoup en Afrique, un petit peu en Asie du Sud-Est et puis en France, bien sûr.
Ouais.
Et puis en laboratoire, je suis hébergé en tant que CNRS au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Donc là, ils m'ont sorti de mon bocal et je suis ravi.
Wow, bon, parce que vous êtes aussi fan de fantastique.
Un petit peu, ouais.
Un petit
surtout
peu,
de science-fiction et de science et d'imaginaire, en fait.
On vous regarde, on doit vous regarder de Bioué, ça c'est du galop de par chez nous, mais celui-ci, j'ai vos collègues scientifiques, ils disent, il lit des trucs de Gremlin.
Un petit peu, oui, mais c'est bien aussi de tester l'humour des collègues en fonction aussi de ce que je fais en diffusion des connaissances, c'est-à-dire j'utilise la culture des mondes imaginaires et les différents corpus de mondes inventés, comme celui de Tolkien, mais aussi comme celui de Frank Herbert, pour, pas ramener ma science, mais montrer qu'avec la science, on peut avoir un éclairage intéressant, peut-être différent, et amener en fait les différents publics à s'intéresser aux sciences.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à débarquer et à être invité par Courmétrange?
Antoine, c'est à cause d'Antoine Mautier.
Ah, oui,
désolé.
Alors dites-nous, Antoine.
Alors, il se passe que l'année dernière, nous avions une thématique purement science-fiction. Et qu'avec un certain de ses camarades qui s'appelle Gros Gangouk, nous avons fait une superbe table ronde autour de la science-fiction et du cinéma. C'est-à-dire des sciences du cinéma, c'est imaginer pourquoi Avatar, par exemple, a un très bon vaisseau, mais pour autant, ça déconne beaucoup et dans tous les tubes. Et que des scientifiques comme celui-ci qui était à côté de moi ou un autre qui est son comparse te disent « Oui, c'est beau, mais c'est pas crédible. »
Bah oui.
Voilà. Genre, par exemple, on prend un truc d'une, une espèce de combinaison totalement faite pour survivre dans le désert, théoriquement. C'est bien, mais théoriquement, ça doit faire trois fois plus de poids, voire même, ce n'est pas du tout possible.
Vous êtes un peu un casseur d'ambiance, du coup.
Non.
Parce que moi, je rêve, je vois un truc, c'est super. Et puis, alors, la combine de l'autre, là, c'est une combine de ta fiole, vous laissez tomber.
La distille.
Ça, cric-crac, c'est de la dope.
Le fantastique, c'est aussi l'imagination.
Oui, alors, et puis, on sait bien que la science-fiction ou l'heroic fantasy ou la fantasy en général, c'est la culture des mondes imaginaires. On n'est pas là pour débunker ou dire ouais, Star Trek c'est bien, Star Wars c'est nul ou inversement. On est juste là pour expliciter en fait les sciences qui peuvent se cacher derrière la science-fiction en se décalant, en faisant un petit pas de côté, en développant l'esprit critique, en montrant qu'un monstre ou un extraterrestre lambda, il est composé de caractères morphologiques que l'on peut prendre en fait d'espèces réelles ou actuelles ou fossiles d'ailleurs. Et du coup, on essaie aussi d'inculquer ces différentes méthodes scientifiques qu'on utilise dans la vraie vie par contre.
D'accord.
Pour exemple,
je veux dire, déjà, on fait pas les marionnes parce qu'on comprend pas tous les mots qu'il dit.
Ouais,
déjà.
Il parle bien.
Ah, il parle bien. Non, Antoine, aidez-nous.
Pour exemple, on sort
un exemple
tout juste de conférence sur les créatures imaginaires dans le milieu aquatique. Il est capable de vous expliquer comment Godzilla est quelque chose de fantastique d'un point de vue anatomique. Et pourquoi parfois ça déconne, mais il vous explique pourquoi ça déconne. Je vais laisser vous expliquer peut-être en moins de 2 minutes pourquoi ça déconne, mais pourquoi c'est aussi intéressant. Parce que ça a des références historiques ou de culture populaire où ça raconte quelque chose.
Bah, La vie, ça déconne depuis les origines, part.
Oui, oui, tout à fait. La vie, c'est une grande déconnade. L'évolution des espèces, c'est le bordel. Et on est là, non pas pour faire de l'ordre dans tout ça, mais pour essayer de mieux comprendre, en fait, le bordel ambiant de l'évolution des espèces.
Et puis avec plein de surprises. Là, je voyais, j'aime bien regarder les petites nouvelles, là, les trouvailles. Et là, je crois que c'est en Afrique australe, où on a découvert des bouts de bois, heureusement protégés dans la rive d'une rivière. Je crois que ça fait déjà polémique, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Mais il semblerait quand même qu'alors qu'on n'était même pas encore au néolithique, pouf, ils avaient construit soit un ponton, soit une espèce d'abri, on ne sait pas trop.
Oui, tout à fait. Et en fait, nous, on édifie des modèles en fonction de ce que l'on découvre, que ce soit chez nos ancêtres, hominidés, ou chez les dinosaures ou les autres espèces. Et ensuite, on part sur le terrain, on organise des missions paléontologiques de prospection avec des géologues, et pour aller en fait confirmer ou pas nos hypothèses de travail. Et on se rend compte que souvent, quand on veut répondre à une question, eh bien, on répond pas forcément à la question donnée, mais on ouvre sur d'autres questions aussi intéressantes.
Et puis, alors qu'on croit avoir trouvé, pouf, le Graal, il y en a un autre vilain qui va gratter ailleurs, et pouf, il retrouve quelque chose de plus vieux qui remet en cause ses théories. C'est ce qui est arrivé à Copin, c'est avec Lucie, en fait, avec les trouvailles qui ont été faites au Mali, je crois, si je dis pas de bêtises.
Au Tchad, oui, effectivement. C'était la West Side Story sur l'origine, en fait, de notre genre à nous, Homo. Et on a trouvé des australopithèques avant la découverte de Michel Brunet, en fait, du côté du rift éthiopien qui explicitait et qui illustrait en fait ce modèle jusqu'au jour où on a trouvé dans le désert du Tchad d'autres formes de vie australopithèques qui remettent en cause en fait cette West Side Story.
On va arrêter. Qui sont antérieures en plus à Lucie, c'est fou ça.
Tout à fait.
On va arrêter de parler de paléontologie parce que je crois que je vais choper vos numéros de téléphone pour vous inviter spécialement là-dessus parce qu'il y a Antoine qui est là. On est là pour
Courts-Métranges. Tout à fait. Et des conférences parce que, alors, on dit vous êtes modérateur. C'est pas un peu l'idée que je me faisais de vous.
Je modère les propos de mes invités, sinon.
Moi j'avais le côté Monsieur Plus de Balzen.
Oui, aussi, si vous voulez.
Fan de Monsieur Plus, moi.
Mais si vous voulez, je peux dire à Jean-Sébastien Stégard, et sinon, le reste des créatures aquatiques, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça permet d'aiguiller le sujet. Je suis là juste pour aiguiller les invités qu'on accueille avec grand plaisir, avec toute une équipe, on essaye de monter tout un pôle de conférences.
Alors, vous travaillez sur le choix des conférences, comment dirais-je, vous êtes modérateur, dites-nous un petit peu comment ça se passe.
Alors, on est une petite équipe de 4 à 5 personnes qui, une fois que l'association a décidé du thème de l'année, se réunissent à peu près pendant 4 à 5 mois. Pas sur des rendez-vous fréquents, mais on discute. On essaye de trouver des invités. Si les invités peuvent pas, on essaye de retrouver d'autres invités, mais avec quelques créneaux, quelques orientations sur les créatures marines, par exemple, que Jean-Sébastien était venu l'année dernière sur la science-fiction. Il est très fort pour nous expliquer l'anatomie des bébêtes qu'on voit 3 secondes à l'écran parce qu'il met pause. Il pourrait vous raconter pourquoi Totoro est un mammifère qui possède une mâchoire particulière. Mais c'est qu'un exemple. On essaye d'élaborer quelque chose qui soit fun, didactique, vulgarisant, pas dans le sens vulgaire,
accessible à tous,
mais qui fasse des ponts avec le cinéma. Le cinéma ou la culture populaire qu'on aime. Et d'avoir ces rendez-vous totalement gratuits.
C'est
gratuit.
Mais il faut le dire, il faut les commencer par ça.
Toutes les conférences sont gratuites.
Non, mais ça,
autant le cinéma.
Alors, ils ont lieu où les conférences
Alors, les conférences ont lieu au village Métrange, ont eu lieu au champ libre en inauguration pour une projection, enfin pour un film qui a été projeté dans la foulée qui s'appelle The Lighthouse, avec par exemple Robert Pattinson qui est totalement à contre-emploi, son comparse qui est beaucoup moins, c'est Monsieur Dafoe, mais qui l'est beaucoup moins. Et ensuite, nous avons commencé par faire des conférences aujourd'hui aussi. Nous avions une conférence sur une série avec des amis qui font aussi du podcast. Ils font pas de radio, ils font du podcast et du Twitch.
Avec c'est de la radio aussi, c'est de la radio.
Justement, parce que
Canal B finira en gigantesque podcast.
J'ai vu qu'il y avait un enregistrement en public du podcast, entre guillemets, réalisé son truc.
Alors, réalisé son truc. personnages. C'est un peu la Dream Team des Avengers du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font partie de... On a un certain Nicolas Martin qui était président du jury l'année dernière, qui est membre de cette petite team avec son comparse et être bicéphale qui s'appelle Simon Rio. Et ils avaient un petit podcast et ils ont décidé de faire une refonte totale de ce podcast pour différentes raisons. Et ils ont monté une émission réalisée sans trucage, qui fait une fois par semaine et au moins une fois par mois, un podcast dédié soit aux actualités, soit au patrimonial. Mmh. Là, ils vont enregistrer un podcast patrimonial et aussi spécial court-métrage sur Deliverance, un film qu'on a projeté ce week-end. Et c'est toujours très fun, c'est toujours rempli de culture populaire, de participation du public, et ça donne envie d'aller, si on écoute ce podcast, ça réalisé sans trucage, ça donne réellement envie d'aller voir le cinéma.
Et pour les conférences, il y a du monde, du coup?
Alors, aujourd'hui, par exemple, on avait à peu près 75 personnes à un horaire de 18h30 à jeudi soir.
Au village?
Non, au Muséum des Beaux-Arts, parce que c'est notre partenaire aussi, qui nous permet aussi d'accueillir des interventions scolaires le matin.
Et vous vouliez dire
75 personnes d'après la police.
Oui, voilà.
Donc, 110 personnes d'après les syndicats.
Ouais. Ouais. Et puis, alors, un petit conseil. Moi, je dis, il faudrait faire ça au village parce qu'il y a la buvette.
Il y en a au village. Par exemple, le truc, c'est que nous, on était à 18h avec Jean-Sébastien, mais à 18h30, mais à 17h, de 17h à 17h30, à 18h30, il y avait une conférence avec nos amis Spoggers, dont je parlais précédemment, qui faisait un truc autour de Abyss, cette série francophone produite aussi par France 2, qui a été diffusée cet été, enfin dans le courant du début de l'été, la fin du printemps, début de l'été, et qui accessoirement rassemblait deux personnes que vous connaissez, qui s'appellent Steven Pravong et Cyril Dozier.
Enfin, le président, désolé.
Enfin, les deux boss.
Voilà, les deux boss, c'est pas mal, ouais.
On s'écoute un petit Dix et après on termine parce qu'il est déjà 21h21, mon pote.
Et puis j'aimerais bien demander à Antoine ce que c'est qu'un cyanotype, parce que j'ai un Gurval, il ne l'a pas dit. Voilà.
C'est toujours, ce sera notre gimmick de la soirée, je vous répondrai, c'est
voilà,
promis.
Voilà, juste parce que je ne sais pas. Allez Tom, c'est parti.
Down. Now you come back.
Bonsoir, bonsoir, ouais, bonsoir.
Il y a Antoine qui a deux petites nouvelles à
nous reste
dire.
5 minutes voilà.
Parce
que
on parlait des conférences, il y a quand même 3 rendez-vous à ne pas louper. On a encore une conférence sur la sororité, enfin du coup sur le féminisme et sur la place des femmes dans le cinéma de genre qui aura lieu pendant le week-end au Village Métrange. On a une table ronde sur l'écologie parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, c'est aussi une ressource indispensable à notre survie.
Ouais, mais c'est assez rigolo.
Mais non,
parce
on met tout ça dans une bassine et puis voilà. Ça roule.
Parce que mais... la symbolique de l'eau, elle apparaît partout dans les religions, oui, dans les légendes, partout.
Mais même en science-fiction, moi, je pourrais te citer 3 ou 4 auteurs, dont Paco Bacci, Gagoupi ou un Breton. Jean-Marc Ligny, qui ont écrit tous les deux sur le fait qu'on privatise l'eau. Et on a un dernier rendez-vous cinématographique qui me tient à cœur, parce que je suis aussi sur le plateau, mais c'est surtout qu'on reçoit le spécialiste français de James Cameron, qui a un rapport très particulier à l'eau.
Oui, parce qu'il a plongé sur le Titanic, lui, sans exploser, lui.
Mais entre autres choses, il a réalisé Piranha, il a réalisé Titanic, il a réalisé Abyss, il a réalisé Avatar 1 et 2, et la place de l'eau est prépondérante dans son œuvre. Voilà, et je ne crois pas oublier une seule conférence. On a quand même un rendez-vous avec des éditeurs rennes, une maison d'édition rennaise dimanche après-midi qu'il ne faut pas louper, qui est Annibale Debout.
Au Village Métrange.
Au Village Métrange, à 16h ou 17h. Mais venez à 16h, il restera de la bière. Alors, et du
moi
café.
Moi déjà, demain, séance dessin animé et village après.
Moi, j'ai toujours cette putain de question à la con. Qu'est-ce que c'est qu'un cyanotype ?
Alors, un cyanotype, c'est comme un principe photographique, mais un peu différent. On applique nous-mêmes avec un pinceau et des pigments qui sont plus photosensibles, mais qui sont plutôt bleus, d'où son terme cyano, de bleu, le bleu cyan. Et le rendu fait que l'on a un inversé, un négatif imprimé sur papier, un photogramme, pour être précis, un photogramme de ce qu'on a posé comme objet sur ce papier photosensible.
J'ai toujours pas bien compris, en fait, là. Ça donne un effet de lumière ou ça donne un effet de forme?
Alors,
de...
vous imaginez un négatif, au lieu qu'il soit transparent sur gélatine, il sera sur papier bleu et blanc.
Mais ce reste un négatif, c'est-à-dire les couleurs sont inversées.
Non, les formes sont inversées, c'est un effet miroir.
Je suis sûr, mais c'est le type. Oh là là. Voilà. J'aime bien savoir.
Mais c'est une image inversée, comme un photogramme. Un photogramme, le principe d'un photogramme, c'est de prendre une surface photosensible, de poser des objets dessus, d'insoler cette surface, et du coup, on a l'impression d'avoir...
C'est du papier sensible.
C'est du papier sensible. Donc, on a l'inverse d'une photo réelle.
Alors, on a parlé des conférences, du village. C'est gratuit.
C'est gratuit.
Mais si je veux aller voir des films ou des courts-métrages, ça, c'est payant, mais c'est pas cher.
C'est pas cher. On a des tarifs qui sont beaucoup moins onéreux que les films distribués de manière classique.
Combien ? Dites-moi des prix.
Alors, je crois que ça tourne à peu près aux alentours des 7 euros, mais nous avons des tarifs préférentiels qui dépendent de certains critères. Nous avons un maximum de tarifs préférentiels parce que nous aimons aussi bien les jeunes que les vieux.
Je les ai.
Voilà.
Antoine, tarif plein, 7 euros.
Voilà.
Tarif réduit, 6 euros. Voilà. Tarif carte sortir, 6 euros. 3 euros pour les porteuses de la carte. Accrédité, 5 euros sur présentation.
De gâchis. Je paye 7 euros, j'ai le droit à quoi? En fait, c'est une durée de film?
C'est une durée à peu près
d'1h10.
1h10, parce qu'on estime qu'au-delà d'une heure, on aimerait bien faire des séances plus grandes, mais on estime que les spectateurs
décrochent
au bout d'une heure et demie.
Mais maintenant qu'il y a le Village Métrange en face.
Alors, ce que vous avez peut-être dit Gurvag, c'est qu'on est sympathique, c'est qu'on dédouble les séances aussi. C'est-à-dire
alors, la question que j'ai, parce que moi j'ai des amis, ils ont été voir un match de rugby à Marseille pour se faire tirer une bière, c'était un cauchemar.
Oui, mais ici,
entre deux séances, j'ai le temps d'aller au village.
On a 30 minutes pour boire une bière, ce qui est largement nécessaire.
Bien. C'est mieux même.
Bien. 30 minutes à une heure, ça dépend
des
horaires.
Il y a des gens qui sont penchés là-dessus chez vous.
Ah, mais nous avons un bar associatif.
Ah, bien, bien. Voilà. Mais moi je dis, ça c'est bien. Ça c'est les petits côtés pratiques auxquels on ne pense pas. Dans le temps, avant, dans les premiers courts-métrages,
on avait presque pas le temps.
À peine le temps de fumer une clope, il fallait remonter à toute vitesse, vous vous rappelez ?
Oui. au TNB.
Au TNB.
Avec ses escaliers en colimaçon.
Yep.
On remercie parce qu'il va falloir qu'on conclue. Alors, ça, c'est de ma faute. Je sais, on a perdu une petite demi-heure, mais bon.
Non, grosse demi-heure.
Non.
Je le dis.
J'avais juste appuyé sur un putain de bouton sur lequel c'est marqué coupure Canal B. Ça va, c'est pas non plus.
C'était pas une coupure de presse.
On remercie Antoine d'être passé et peut-être qu'on vous recevra pour la 20e édition. Ce sera l'année prochaine.
Bien sûr, c'est l'année prochaine. Attendez-vous à Dugour.
Et Jean-Sébastien Steyer, c'est ça, j'ai retrouvé votre nom de famille, qu'on reverra un jour pour nous parler de paléontologie, parce que ce sujet m'intéresse.
Vous n'y couperez pas, mon ami. Vous n'y couperez pas. En plus, vous avez l'air sympathique, de bien aimer la limonade, on devrait s'entendre.
On vous dit salut et à la semaine prochaine si je casse pas tout comme d'habitude.
Ça m'étonnerait. Est-ce que déjà on aura le droit à l'antenne la semaine prochaine? Ça m'étonnerait.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas eu le droit au générique annuel.
Eh non.
Géraldine a eu le droit.
Géraldine a eu le droit.
On peut faire des doubles. Hein, là.